La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
C'est l'heure d'Esprit Libre à 8h41 sur Radio Classique avec Jean-Marie Colombani, ancien directeur du Monde, fondateur de Slate, que vous retrouverez demain à 8h dans Commentaires avec Jean-Claude Casanova. Et puis Cécile Cornudet, que vous lisez tous les jours dans Les Échos. Elle signe l'édito politique. Bienvenue à tous les deux, vous allez bien ?
Très bien.
Bonjour.
Vous me posiez la question de ce tableau, La baigneuse de Courbet. Eh bien, tiens, je vous passe hors cadre, je vous l'offre, le livre de Johan Naldi, vous verrez. Si c'est un Courbet, et c'est probablement un Courbet, eh bien, cette baigneuse est magnifique. Alors nous, on va changer d'univers. Macron accusé par le Kremlin d'accroître l'implication de la France dans le conflit. Emmanuel Macron qui estime que l'Europe ne peut pas se permettre de se fixer des limites face à un Poutine qui n'en a aucune. Les tensions verbales montent d'un cran. Comment expliquez-vous cette prise d'initiative répétée d'Emmanuel Macron ? Quel est son objectif ? Parce qu'évidemment, il ne fait pas ça sans réfléchir.
Moi, je crois que c'est l'inquiétude, tout simplement, qu'il a amené à complètement changer de pied, parce qu'effectivement, il y a 2 ans, il était plutôt à essayer de trouver des voies de discussion avec Vladimir Poutine, et que là, il s'inquiète vraiment pour l'Europe, pour nous, il se voit un peu en lanceur d'alerte, et il essaye de réveiller et les opinions. Et la classe politique française, mais ça, ce sera difficile, et nos partenaires européens pour dire si on le laisse gagner l'Ukraine, après, il n'y a plus de limite pour le coup, donc il faut qu'on réfléchisse à l'après.
Est-ce qu'il a en tête, au-delà de l'Ukraine, peut-être la mise en place d'une défense européenne plus structurée qu'elle ne l'est aujourd'hui ?
Oui, ça depuis le début.
C'est un serpent de mer depuis les années 50.
Depuis son discours de la Sorbonne, il est beaucoup sur ça. Mais c'est vrai que quand on voit les réactions allemandes, notamment, on n'y est pas parti. Mais ce qu'il y a, il a ce réveil call là très 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 violent. Mais est-ce que derrière il y a une réflexion sur comment on fait concrètement? Pour livrer plus d'armes à l'Ukraine, on sait que nous on est très en retard. Pour préparer une économie de guerre, alors que on n'a plus du tout d'argent dans les caisses, qu'est-ce qu'on fait même nous en France? Ça, j'ai l'impression que au-delà des mots, il n'y a pas beaucoup de réflexion à ce stade.
Jean-Marie Colombani, quand la presse fait état des propos d'Emmanuel Macron, de la réponse russe, il y a rapidement le mot va-t-en-guerre qui est employé avec, et qui est engagé notamment par les détracteurs du président de la République. Est-ce qu'on peut parler de va-t-en-guerre ou plutôt de lanceur d'alerte ?
C'est-à-dire, va-t-en-guerre, il en existe un, vraiment. Mmh. C'est Vladimir Poutine. C'est lui qui déclenche la guerre. Et auparavant, il y avait en effet un durcissement des relations franco-russes, mais qui était visible, par exemple, en Afrique. Tout le monde l'a oublié, mais les Russes nous ont quasiment expulsés d'un certain nombre de pays africains. Donc la France est ciblée depuis un bon moment. Et donc, le va-t-en-guerre, oui, c'est Vladimir Poutine, c'est certainement pas Emmanuel Macron. Alors, ce qu'il faut rappeler sur cette histoire de troupes au sol qui fait beaucoup jaser, beaucoup réagir, c'est le point de départ. Le point de départ, c'est l'irritation française et anglaise à la suite des déclarations du chancelier allemand qui expliquait pourquoi l'Allemagne ne livrerait pas de missiles, les missiles Taurus, je crois, qui sont comparables aux missiles Scalp de la France ou de la Grande-Bretagne. Parce que, disait le chancelier, nous ne voulons pas avoir de soldats au sol, de techniciens soldats qui aident à la mise en place de ces armes. Et donc ça a provoqué la colère des Français et des Anglais de dire, mais vous révélez le pot aux roses, c'est-à-dire qu'il y a déjà des soldats. Et quand il dit troupes au sol, c'est de cela que l'on parle. C'est pas du régiment d'infanterie de marine. Mais tout le monde est parti après sur cette notion de troupes au sol pour en faire quelque chose qui ne correspond pas à la réalité de ce qui a été dit et de ce qui a été protesté, en fait, ouvrant d'ailleurs une vraie crise entre la France et l'Allemagne.
Mais nous avons un problème avec l'Allemagne.
Bien sûr, on a un problème avec ce chancelier. On a un problème avec l'Allemagne, mais on a surtout un problème avec ce chancelier qui, manifestement, n'est pas très habile. Et c'est vrai que la relation était meilleure avec Angela Merkel et elle serait probablement meilleure avec d'autres dirigeants allemands. Mais celui-ci est particulièrement, je veux dire, rigide et en tout cas nous pose un vrai problème. Donc ensuite, on peut dire oui, alors du coup, ça isole Emmanuel Macron. Pas tant que ça. Ça ne l'isole pas tant que cela à l'extérieur. Pourquoi ? Parce que ce qu'il avait isolé, Emmanuel Macron, c'est ce à quoi fait référence Cécile tout à l'heure. C'est-à-dire, ce sont ses premières prises de position. L'approche du conflit par Emmanuel Macron a connu son apogée, si j'ose dire, quand il a dit « il ne faut pas humilier la Russie ». Mais là, nous nous sommes coupés d'une bonne moitié du reste de l'Europe, notamment de tous les anciens pays d'Europe de l'Est. C'était ça l'isolement de la France. Et en prenant la position qu'il prend aujourd'hui, qui consiste non plus à dire il faut pas que l'Ukraine perde, mais il faut que la Russie perde. Et ça, c'est de nature à rassurer beaucoup de nos partenaires et amis.
Et il y a une convergence, Cécile Cornudet, de mots et d'alignement entre le discours devant l'État de l'Union de Joe Biden, hein, c'est un peu papy fait de la résistance, si on écoute bien les recensions des journaux aujourd'hui. Biden qui évoque à la fois l'IVG pour cliver face à Trump et qui évoque un soutien quand même déterminé aux côtés de l'Ukraine. Ça donne raison à Emmanuel Macron ?
En tout cas, la situation américaine et le fait qu'il y ait une possibilité d'élection de Donald Trump a poussé Emmanuel Macron à réagir dès maintenant. C'est sûr que la lecture américaine est très importante parce que Joe Biden dit qu'il veut soutenir l'Ukraine, mais on ne sait toujours pas si son paquet d'aide va être voté. C'est effectivement une donnée essentielle. Le problème pour Emmanuel Macron, c'est de savoir si, au-delà de ce qu'on dit sur la nécessité d'avoir un mot fort vis-à-vis de la Russie, s'il essaye ou pas de l'instrumentaliser politiquement pour les élections européennes.
J'allais y venir.
Et c'est ça, en fait, le souci, c'est que les Allemands qui connaissent Emmanuel Macron et sa volonté de leadership, les Français qui ont beaucoup vu Emmanuel Macron faire des coups politiques pour exister dans le débat, sont abîmés par cette image-là d'Emmanuel Macron, ce qui fait qu'on ne le croit pas sincère dans son alerte d'aujourd'hui. On pense que forcément, il y a des intentions cachées derrière. Et s'il y a des intentions cachées derrière, parce qu'il y en a peut-être aussi, on voit bien qu'il cible beaucoup le Rassemblement National, là, pour le coup, c'est un peu risqué politiquement, parce que comme les Français n'ont absolument pas envie de la guerre, comment ce discours-là se traduit dans 3 mois aux élections européennes, c'est un sacré Paris de penser que ça pourrait aller dans son sens.
Surtout que la séquence géopolitique commentée et alimentée par Emmanuel Macron de cette semaine précède le lancement de la campagne des Européennes demain à Lille. Et il y a ce paradoxe quand même, Jean-Marie, je vous pose la question, mais il y a ce paradoxe qu'on a eu une élection présidentielle qui était phagocytée par la question ukrainienne et qui a empêché toute campagne. Et là, pour le coup, c'est l'inverse. La question ukrainienne est en train de créer un clivage politique. Alors, est-ce que c'est voulu ?
Le clivage existe. Il existait déjà,
mais Emmanuel Macron veut le creuser davantage, visiblement. Oui, est-ce qu'il y a un choix tactique de sa part entre ses prises de position géopolitiques cette semaine et puis la volonté de dire entre le Rassemblement National et Renaissance, pour les Européennes, il n'y aura plus rien ?
Moi, je dirais que le second aspect que vous évoquez, qui est l'aspect, disons, instrumentalisation politique, est second par rapport au premier, qui est la prise de conscience. D'accord. D'abord, pourquoi est-ce que nous en sommes là ? Parce que ça ne va pas. Ça ne va pas sur le terrain. Et les Ukrainiens sont en difficulté, en grande difficulté. C'est ça aussi qui provoque tout cela. Alors, avec une petite différence entre Emmanuel Macron et Joe Biden dit « je vais faire tout ce qui est possible ». Emmanuel Macron dit « il faut faire quoi qu'il en coûte, d'une certaine façon ». Donc, c'est une position un peu plus ferme que celle de Joe Biden. Mais néanmoins, les deux seront nécessairement liés. Et pour ce qui est de l'affaire ukrainienne, aujourd'hui, telle qu'elle se développe, c'est vrai que c'est un révélateur. C'est un révélateur de quoi ? De la tendresse que le Rassemblement National a toujours eue pour la Russie et pour la Russie de Vladimir Poutine. Alors c'est vrai qu'à l'inverse, quand on entend Jordan Bardella dire « nous soutenons l'Ukraine », et ensuite il dit « mais nous ne ferons rien, nous soutenons l'Ukraine, mais nous ne voulons pas la guerre », c'est sûr que c'est une position facilement majoritaire.
Est-ce que les Français vont pas trouver que la ficelle est un peu grosse d'accuser toujours le RN d'être le cheval de Troie de la Russie en France ? Les Français vont finir se dire, ils peuvent se dire tout ça pour un prêt.
Oui, mais c'est quand même une réalité, il y a quand même un certain nombre de responsables du RN qui sont toujours proches de la Russie.
Il n'y a pas il y a des votes aussi.
Et puis il y a tous les votes au Parlement européen. Tout le fait, par exemple, vous les avez entendus condamner l'exécution de Navalny Non. Donc, vous voyez, il y a cette permanence-là. Et d'ailleurs, c'était assez drôle d'entendre Bardella dire hier, le président de la République nous isole de nos partenaires et de nos amis et partenaires. Mais les partenaires, ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Ils sont contre l'OTAN, globalement, et ils sont très réservés sur l'Union européenne. Vous voyez, donc, c'est, malgré tout, c'est un révélateur utile. Et on ne peut pas faire grief au président de la République de mettre l'accent sur ce qui est à sa portée et qui est de relever les contradictions de cet adversaire qui lui a évidemment toujours réussi, puisqu'il a été élu deux fois comme un rempart face au Rassemblement National.
Avant de parler des profs, je voudrais vous lire un message d'un auditeur qui nous dit « Il faut expliquer aux auditeurs que l'envoi de missiles Taurus en Ukraine suppose qu'il y ait des techniciens sur place, mais Jean-Marie Colombani l'a dit, il faut écouter Jean-Marie Colombani, Frédéric, que je salue, auditeur le plus souvent attentif de Radio Classique. » Alors, un rapport est venu hier confirmer le désarroi des profs face aux menaces sur la laïcité, rapport qui fait suite à la mort de Samuel Paty, puis de Dominique Bernard. Ce rapport préconise des choses, 38 propositions assez molles. J'ai relevé une charte des parents à signer en début d'année et la création de structures dédiées aux élèves, j'ouvre les guillemets, les élèves polis exclus. Je vous ai vu que les...
Poly exclus.
Avec un Y. Oui, bah voilà. Fois, exactement.
Exclus à répétition.
Exactement. Ils sont pas complètement polis, mais ils sont surtout polis exclus. Exclus souvent. Ça sonne curieusement.
En tout cas, il y a une vraie inquiétude. Ça, c'est, on est quand même longtemps maintenant après l'assassinat de Samuel Paty. Il y a eu normalement toute une opération faite de formation des profs, des jeunes aux questions de la laïcité et on n'a pas avancé d'un pied. Il y a eu cette semaine un incident très grave au lycée Maurice Ravel dans le 20e arrondissement de Paris. Un proviseur qui demande à une élève de retirer son voile et immédiatement la chose qui s'emballe, les parents, parce que ce que dit ce rapport, c'est que les parents sont de plus en plus violents à directement interpeller les profs et les proviseurs. Les parents qui rentrent dans un bras de fer et une violence sur les réseaux sociaux, dans la menace directement. Donc c'est vrai qu'il y a un énorme désarroi parce qu'ils se sentent complètement seuls. Donc comment on protège ces profs et comment on essaye de faire complètement machine arrière sur le regard que les jeunes ont de la laïcité. Elle n'est plus comprise en France. Dès que vous avez moins de 25 ans, vous ne comprenez pas.
La laïcité pour un certain nombre de jeunes, justement, est vécue comme une contrainte et énoncée
comme une arme contre les musulmans.
Pardonnez-moi, mais l'inverse. Non, mais je veux bien qu'on tourne autour de la laïcité, etc., etc. Mais la discipline, l'autorité, le comportement sont des notions qui deviennent complètement étrangères dans certaines classes à une certaine population.
Et le chiffre d'ailleurs cité par le rapport sénatorial est angoissant puisqu'il évoque 10% du corps enseignant qui est face justement à des épisodes de violence ou de mise en cause. L'essentiel étant la mise en cause de certains enseignements. C'est ça qui est évidemment le plus désastreux et qu'il faut combattre le plus vigoureusement. Mais c'est vrai que ça paraît être, j'allais dire, une montagne sans fin.
Je vais vous poser une question. Face à ça, les syndicats d'enseignants, l'éducation nationale dit oui, il faut plus de moyens, il faut rénover les lycées. On a eu au lycée de Cachan, là, une espèce d'émeute avec une voiture de police. Retourner en aval, si j'ose dire, d'une protestation des enseignants et des élèves qui estimaient que le lycée était insalubre et qu'il fallait le retaper. On a le sentiment qu'en fait, quoi qu'on fasse, même si on parachute des millions
sur les infrastructures,
qu'on parachute des millions sur les infrastructures de l'éducation nationale, qu'on fasse des cantines bio, qu'on fasse des cantines vegan, qu'il y ait des programmes de formation dans tous les sens, que ce soit de plus en plus sophistiqué, qu'on revisite les notions d'autorité, on n'est pas sûr du tout que l'autorité reviendra.
Non, parce que la violence est partout, il n'y a plus de sanctuaire, et que les profs maintenant, et les parents maintenant, beaucoup de parents, 30% cite le rapport, dans les incidents, ça vient des parents eux-mêmes, ils vivent l'école comme un adversaire, et pas comme quelqu'un qui va les aider à élever leur enfant.
Mes amis, je voulais vous parler, mais on n'aura pas le temps, mais d'une certaine façon, Augustin Lefebvre, dans le journal imprévisible, Invisible a évoqué le sujet, c'est la difficulté des jeunes à se nourrir, ou en tout cas de certains, reconnaître une carotte, un concombre d'une courgette. Ça fait sourire, mais enfin, il y a tout un problème derrière le repas, derrière la préparation du repas, derrière la culture de l'alimentation.
Puis il y a aussi un vrai problème de pouvoir d'achat.
Évidemment, de pouvoir d'achat.
Légumes par jour, fruits et légumes par jour, il faut regarder les prix, il faut regarder l'augmentation des prix de ces produits.
Il faut regarder les caddies
carottes,
aussi.
Je crois que les carottes ont augmenté en un an de 40%. Quand vous êtes face à... C'est ça l'inflation, c'est ça que vivent les gens. Et puis tiens, je vais vous livrer une information, David, qui va peut-être vous surprendre. Vous savez que la Ligue de football est sponsorisée. Aujourd'hui, la première ligue, l'ancienne Division 1, c'est la Ligue Uber Eats. Qui sont
sponsorisés par des vendeurs de soda et de bouffe.
Le prochain sponsor, l'année prochaine, la saison prochaine, c'est McDonald's. Et donc, McDonald's, c'est vraiment, ça va pas tout à fait dans le sens que vous souhaitiez.
Si vous allez chez McDo une fois par mois, vous vous en tirez. Il faut pas y aller une fois par jour ou à chaque repas. Et c'est tout le problème de l'éducation alimentaire. On va se quitter avec l'introduction, le prélude du Roi Carotte. Le Roi Carotte est un opéra bouffe d'Offenbach. On devait parler d'alimentation. Vous entendrez donc cet extrait du Roi Carotte. Cécile Cornudet, je vous dis à la semaine prochaine. Idem à Jean-Marie Colombani, que vous retrouvez demain 8h pour commenter avec Jean-Claude Casanova. Merci à tous les deux. Allez, un peu de musique.
Merci, David.